Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 5 septembre 2024. Au Kenya, émotion et indignation après la mort de l'athlète ougandaise Rebecca Cheptegei. Le président chinois Xi Jinping promet aux pays africains 50 milliards de dollars sur 3 ans. En Guinée, la capitale Conakry est à l'arrêt en raison d'un mouvement de contestation du pouvoir par l'opposition.
Quand vous regardez sur le plan politique, il y a des difficultés quant à retour à l'ordre constitutionnel lié à un manque de volonté d'une manière très prégnante.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est en visite en Haïti pour apporter le soutien des États-Unis au nouveau gouvernement. En France, le président Emmanuel Macron a nommé l'ancien commissaire européen Michel Barnier au poste de Premier ministre. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La marathonienne ougandaise Rebecca Cheptegei est décédée des suites de ses brûlures. Un homme présenté comme son compagnon l'avait immolé par le feu dimanche dans l'ouest du Kenya, Yakuba Ouedraogo.
J'ai le triste devoir de vous informer du décès de Rebecca Cheptegei, qui avait été admise dans notre unité à la suite de graves brûlures.
Severe burns that she sustained.
Docteur Kimani Mbugua de l'hôpital d'Eldoret, où avait été admise Rebecca Cheptegei, brûlait à plus de 80% selon les médecins. D'après un rapport de police, le suspect identifié comme Dixon Ndiema Maragash s'est introduit dimanche dans la propriété de Rebecca, l'a arrosé d'essence et a mis le feu sous les yeux de ses deux fillettes de 9 et 11 ans. Le rapport de police présente Rebecca et Dixon comme un couple qui avait constamment des disputes familiales. Sa mère, Agnès Ndiema Cheptegei, est inconsolable.
C'était une bonne enfant, très polie et elle n'avait pas beaucoup de problèmes.
Le ministre Kenya des Sports a annoncé l'ouverture d'une enquête sur la mort de l'athlète ougandaise de 33 ans. Rebecca Cheptegei, qui avait terminé 44e au JO de Paris, avait une maison au Kenya où elle séjournait lorsqu'elle s'entraînait dans le pays.
Le président chinois Xi Jinping promet plus de 50 milliards de dollars sur 3 ans aux pays africains, dont une cinquantaine de dirigeants sont à Pékin pour le sommet Chine-Afrique. Jacques Aristide.
Cette somme, dont la moitié sous forme de crédit, vise à renforcer la coopération, en particulier dans les infrastructures et le commerce, entre la Chine, la deuxième économie mondiale, et l'Afrique. Je pense que ce sera une grande aubaine pour le continent africain, a déclaré ce jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa en visite d'État dans la capitale chinoise, où il prend part également à ce sommet Chine-Afrique. Ce rendez-vous diplomatique réunit de mercredi à vendredi plus de 50 dirigeants africains, selon les médias d'État chinois. Les relations entre le géant asiatique et le continent africain connaissent la meilleure période de leur histoire, a affirmé Xi Jinping. La Chine est prête à approfondir sa coopération avec les pays africains dans l'industrie, l'agriculture, les infrastructures, le commerce et les investissements, a ajouté le président chinois en promettant d'aider à créer au moins 1 million d'emplois en Afrique. Par ailleurs, Pékin fournira 141 millions de dollars en subventions dans le domaine militaire et assurera des formations à 6 000 militaires et 1 000 policiers et autres agents des forces de l'ordre en Afrique.
Environ 24 millions d'électeurs algériens sont appelés à voter samedi à la présidentielle sans véritable enjeu. Le chef de l'État sortant, Abdelmadjid Tebboune, étant considéré comme largement favori à sa propre succession. Seul l'inconnu, le taux de participation, l'abstention avait battu des records, 60% lors de la présidentielle remportée en 2019 par M. Tebboune avec 58% des suffrages.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Hamas et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se rejettent la responsabilité du manque d'avancée dans les négociations sur une trêve dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien veut qu'Israël conserve le contrôle du couloir de Philadelphie, une zone tampon à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte pour empêcher le Hamas de faire entrer des armes dans le territoire palestinien ou d'exfiltrer des otages ou certains de ses combattants à travers des tunnels. Le négociateur du mouvement palestinien palestinien Khalil al-Aya a exhorté ce jeudi les États-Unis à faire pression sur l'État hébreu en vue de parvenir à un accord de trêve à Gaza, assorti de la libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce jeudi à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, sous état d'urgence pour un déplacement éclair destiné à évaluer les efforts de stabilisation de ce pays miné par les crises. Alexandre Nolognon.
Le déplacement d'Anthony Blinken intervient, selon Washington, à un moment crucial pour Haïti. Le pays connaît des violences sans répit, couplées à une grave crise humanitaire, économique et politique. Le gouvernement haïtien a étendu mercredi l'état d'urgence dans l'ensemble du pays. Le secrétaire d'État américain rencontrera le coordinateur du Conseil présidentiel de transition, Edgar Leblanc-Fils, ainsi que le premier ministre par intérim, Gary Conille, pour discuter des prochaines étapes de la transition démocratique en Haïti et des efforts de stabilisation menés par les Haïtiens, selon le département d'État. Il se rendra également au quartier général de la mission multinationale d'appui à la sécurité, la force de police sous commandement kenyan, censée restaurer la sécurité dans la capitale notamment. Blinken ferait pression pour la tenue d'élections, d'après le sous-secrétaire d'État en charge des Amériques, Brian Nichols. Haïti n'a pas connu d'élection depuis 2016. Dans la soirée, le secrétaire d'État américain se rendra en République dominicaine, où il rencontrera demain vendredi le président nouvellement réélu, Luis Abinader, quelques jours après que les États-Unis l'ont autorisé à saisir l'avion utilisé par le président vénézuélien Nicolas Maduro dans le cadre des sanctions américaines imposées contre Caracas.
En France, le président Emmanuel Macron a nommé comme premier ministre Michel Barnier, gaulliste de droite, succédant à Gabriel Attal, après 2 mois de suspense suite aux élections législatives de juillet ayant débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité. Nathalie Barge.
Michel Barnier a été commissaire européen et ministre des Affaires étrangères et de l'Agriculture. Dès 2016, il a été négociateur de l'Union européenne pour le Brexit. S'il est aujourd'hui le premier ministre français le plus âgé, il a été le plus jeune conseiller général en 1973 à 22 ans et le plus jeune député en 1978 pour le département de la Savoie. La présidence a indiqué qu'Emmanuel Macron s'est assuré que le premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement possible. Ce négociateur aguerri devra former un gouvernement pour échapper à la censure parlementaire. L'Assemblée, issue des législatives anticipées de juillet après dissolution de la Chambre basse, est fragmentée en 3 blocs, gauche, centre-droit et extrême-droite. En 3e position. La gauche, première force de l'Assemblée nationale, réclamait le poste de chef du gouvernement. Son leader, Olivier Faure, a qualifié la nomination de Barnier de déni démocratique porté à son apogée. Et Jean-Luc Mélenchon, de la gauche radicale, a estimé qu'il est la personnalité la plus proche des positions de l'extrême droite. Marine Le Pen a indiqué pour sa part qu'elle jugerait son discours de politique générale avant de se positionner sur une éventuelle censure de son gouvernement.
Les parlementaires ukrainiens ont approuvé aujourd'hui la nomination d'un nouveau ministre des Affaires étrangères et de 2 nouveaux vice-premiers ministres alors que le président Volodymyr Zelensky procède à son plus grand remaniement gouvernemental depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Andriy Sybiha, 49 ans, diplomate expérimenté mais peu connu du grand public, prend les rênes du ministère des Affaires étrangères en remplacement de Dmitry Kouleba, qui a été l'un des visages les plus connus de l'Ukraine à l'étranger ces dernières années. Le pape a de nouveau appelé au dialogue ce mercredi après-midi lors d'une messe géante dans un stade de 80 000 places, point culminant de la première étape de sa tournée en Asie-Pacifique, après avoir signé le matin un document conjoint avec le grand imam de la mosquée de Jakarta. Cette visite en Indonésie s'inscrit dans une tournée marathon dans 4 pays d'Asie du Sud-Est et d'Océanie, initialement prévue en 2020, mais reportée en raison de la pandémie de COVID-19. François, qui quittera Jakarta vendredi matin, est attendu ensuite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis au Timor-Oriental et à Singapour, et où il achèvera le 13 septembre un périple de 32 000 kilomètres. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec John Lindon.
22,655 milliards de francs CFA, soit plus de 38,513 millions de dollars. C'est le montant de la somme encaissée le 4 septembre 2024 par le Trésor public du Mali auprès du marché financier de l'UEMOA selon Financial Afrique. Ceci au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor de maturité 364 jours ainsi que d'obligations assimilables du Trésor de 3 et 5 ans. Airtel Nigeria, filiale d'Airtel Africa, a obtenu 3 licences de télécommunications de la Commission nigériane des communications afin de renforcer la connectivité dans tout le pays, fait savoir Financial Afrique. Ce site d'information économique nous renseigne qu'il s'agit notamment d'une licence nationale longue distance, d'une licence de fournisseur d'accès à Internet et d'une licence de vente et d'installation majeure. Le prix du minerai de fer s'approche de 90 dollars la tonne. Il s'agit, selon l'agence Ecofin, de son plus bas niveau depuis 2022 en raison de la crise qui touche l'industrie sidérurgique chinoise.
Blackfest Now Sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Jean-Roger. Bonsoir à tous.
Suite ce jeudi des matchs de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.
Oui, le Malawi a perdu 2-3 face au Burundi. À suivre, entre autres rencontres de ce jour, Algérie, Guinée équatoriale et Tunisie, Madagascar. Hier, le Soudan s'est imposé devant le Niger 1-0. Un but partout entre les Comores et la Gambie. Même score entre la Libye et le Rwanda. 0-0 entre la Tanzanie et l'Éthiopie. Pour rappel, 48 sélections réparties en 12 groupes de 4 équipes s'affrontent de septembre à novembre 2024. Il est prévu 2 journées couplées lors de chacune des 3 fenêtres FIFA prévues sur cette période. Seuls les 2 premiers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.
Le Cameroun, lui, joue finalement ce samedi contre la Namibie à Garoua.
Tout s'est décanté hier après une rencontre entre le Premier ministre et les joueurs. Dans un communiqué, lui, à la télévision nationale, le Premier ministre Dion Gouté a annoncé avoir pris acte de la décision de la CAF de faire jouer le match contre la Namibie au stade Rumde Adjia de Garoua. Les joueurs sont arrivés à Garoua pour cette rencontre. La FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, avait prévu Douala pour le rassemblement des joueurs et Garoua pour le match. Le ministère des Sports, lui, a fait regrouper les joueurs à Yaoundé et voulait faire jouer le match sur place dans la capitale camerounaise. C'est donc la fin d'un bras de fer entre la FECAFOOT et le ministère des Sports.
Le Mali fait face au Mozambique demain vendredi.
27 joueurs annoncés au départ, ils seront 22 disponibles sur lesquels le tout nouveau sélectionneur Tom Sanfit devrait compter. Notre correspondant Bamako Siaka Traoré nous donne plus de détails.
8 joueurs, et pas des moindres, n'ont pas répondu à l'appel. Si des forfaits ont été signalés, des renforts l'ont été aussi. Des joueurs comme Hamari Traoré, Massadio Aïdara, tous 2 des défenseurs. Amadou Aïdara, milieu de terrain. Nené Dorgeles, Lassine Sinayoko, des attaquants sont forfaits. Pour ce regroupement, pour les forfaits, des cas de blessures sont les raisons évoquées pour la plupart. Le défenseur Fode Doucouré, des attaquants comme Amadi Camara et Mamadou Doumbouya rejoignent le nid des aigles. Même si la hache de guerre semble être enterrée entre la fédération et l'équipe nationale dont son capitaine Hamari Traoré avait été suspendu par la fédération, les forfaits sont diversement interprétés par les supporters maliens parce que c'est au lendemain du malentendu que les 2 matchs se joueront. Ce sont 2 matchs d'un grand enjeu, puisqu'il s'agit des éliminatoires de la CAN. Hamari Traoré, il faut le rappeler, avait critiqué les conditions de voyage de l'équipe nationale contre Madagascar en Afrique du Sud au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, ce qui lui avait valu une suspension. Et beaucoup de ses coéquipiers lui avaient soutenu. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Des nouvelles des Jeux paralympiques de Paris 2024.
Médaille d'or en para-haltérophilie, dame pour l'Égyptienne Rehab Ahmed chez les 55 kilos. Dans la même discipline, chez les 59 kilos hommes, l'or est revenu à Mohamed El Niaoui. En cécifoot, ça ne passe pas pour le Maroc, battu par la Chine 0-1. En volleyball assis, l'Égypte est tombée 3-7-1 face à l'Iran.
Page d'espoir VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Guinée, cela fait 3 ans que les militaires ont pris le pouvoir avec une promesse de retour à l'ordre constitutionnel. Le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, est à Pékin pour le forum Chine-Afrique, alors que dans la capitale, aucune manifestation n'est organisée à l'occasion de cet anniversaire. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Aucune cérémonie officielle n'a été organisée par les autorités guinéennes. Aucun manifestant contre la junte au pouvoir n'a été visible dans les rues de la capitale. Contrairement à l'appel à manifester lancé par les forces vives de Guinée, des acteurs de la société civile qui exigent la libération de 2 leaders du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Les 2 disparitions relancent le débat sur l'exercice des droits de l'homme en Guinée. Alcéni Sall est le responsable de la communication de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme.
Nous dirons quand même que nous sommes largement en deçà des attentes, en dépit quand même de quelques notes positives qu'il faut mettre quand même au compte du CNRD. Et comme vous le savez, en tout cas, un des éléments essentiels sur les questions de droits de l'homme sur lesquels on peut se féliciter ou noter le CNRD de manière positive, c'est d'avoir eu le courage politique d'organiser le procès dans l'affaire des massacres du stade.
3 ans de pouvoir militaire en Guinée, c'est un anniversaire avec un bilan à demi-teinte, explique le politologue Kabidé Fofana.
Ils ont pu mettre en place un avant-projet de constitution. Sur le plan économique, il y a le projet Simandou, par exemple, qui est lancé, qui est plus une perspective de développement et de possibilité de positionner la Guinée sur le plan économique. Mais quand vous regardez sur le plan politique, il y a des difficultés quant à au retour à l'ordre constitutionnel lié à un manque de volonté d'une manière très prégnante.
Un manque de volonté politique, estime le politologue, alors que le Premier ministre est issu de la classe politique.
Je pense que le Premier ministre est arrivé, je suppose, avec cette volonté véritablement de peser. Mais sauf que dès le départ, je pense qu'il n'a pas pu conditionner sa nomination à la possibilité d'arriver à créer cette dynamique inclusive et qui permette justement d'avoir tous les acteurs. Et là-dessus, je pense que en termes de volonté politique, il n'y a pas pu.
Plusieurs radios et télévisions ont été fermées par les autorités guinéennes. Le secrétaire général du syndicat professionnel de la presse de Guinée se dit inquiet.
Le bilan du CNRD en matière de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et des droits de l'homme est totalement, sinon globalement négatif. Parce que quand vous prenez ces 3 ans de sa gestion, il n'y a que les 8 premiers mois qui ont été une période d'espoir pour les médias guinéens.
Les autorités de Conakry ont engagé plusieurs travaux de construction d'infrastructures, des actions en phase avec le premier pilier de la transition, selon le général Mamadi Doumbouya, président de la transition, à savoir l'économie. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Les premiers vaccins contre le Mpox donnés par l'Union européenne et fabriqués par un laboratoire danois sont arrivés aujourd'hui en République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie qui doit recevoir au total 200 000 doses cette semaine. Eddy Sango a joint à Kinshasa le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba.
Oui, on a reçu aujourd'hui un premier lot de 99 100 doses de l'Union européenne.
Est-ce que c'est suffisant? On apprend qu'il y a un autre lot qui va venir.
Non, ce n'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant. Mais effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures pour faire un total de 200 000 doses.
Et quand allez-vous commencer à la vaccination proprement dite?
Il fallait d'abord recevoir les vaccins eux-mêmes pour pouvoir finir la micro-planification. Donc nous avons une petite semaine pour finir la micro-planification. Donc d'ici 10 jours, on va commencer la vaccination.
Il se pose un problème d'électricité et de conservation. Avez-vous pris des mesures pour la conservation de ces vaccins et qui doivent être surtout administrés dans des coins reculés du pays?
Et vous savez que nous avons une grande expérience de cela, notamment avec Ebola. On a eu des vaccins qu'il fallait conserver très très froids. Et nous l'avons fait et nous avons vacciné. Et donc, nous avons une grande expérience de la logistique vaccinale pour des vaccins qui nécessitent effectivement beaucoup de précautions, notamment des températures très froides. Et donc là-dessus, la RDC a des grandes capacités, oui.
Là, c'est les vaccins qui viennent du Danemark, mais on parle d'un autre lot qui viendra du Japon. Quand est-ce qu'il pourra arriver?
Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communiquent avec nos affaires étrangères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé de la RDC.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portail.
Le rapport trimestriel de la police zambienne pour 2024 a révélé que le pays a connu une augmentation significative des accidents de la route au premier trimestre par rapport à la même période en 2023. La Griffin North Road dans le district de Chibombo est considérée comme l'une des routes les plus dangereuses du pays. Muka Sibuku de la VOA nous fait un reportage depuis Lusaka en Zambie et le récit est de Gabi Dorsil.
Dans le district de Chibombo se trouve une route considérée comme l'une des plus dangereuses de la Zambie. C'est ici qu'est survenu un tragique accident de la route en février 2013, lorsqu'un bus de 74 places, exploité par les services postaux gouvernementaux, est entré en collision avec un camion faisant plus de 53 morts. Aujourd'hui, les habitants de cette région appellent le gouvernement à agir pour que pareil accident ne se reproduise plus. Anim Pandé, résidente de Chibombo, appelle les autorités à s'occuper de l'état actuel de la route. Elle dit que le gouvernement devrait prendre des mesures pour améliorer la circulation.
Nous voulons que le gouvernement se penche sur notre problème, améliore nos routes et installe de grands ralentisseurs.
Finesse Kapata, ancien conseiller de la région de Chibombo, souligne la nécessité de réglementer la vitesse des automobilistes empruntant cette route.
We need some signposts put across.
Nous avons besoin de panneaux de signalisation, peut-être 60 km par heure. Ils doivent conduire lentement pour que nous puissions laisser le passage aux piétons qui traversent la route.
Selon le rapport trimestriel 2024 de la police zambienne, le premier trimestre de cette année a enregistré à lui seul plus de 8000 accidents de la circulation, dont plus de 400 mortels. Karen Goma est une survivante d'un accident de la route.
Nous étions sur l'autoroute et il y avait cette voiture qui s'insérait. Puis elle nous a percutés. Mon bras a été brisé en quatre. Je ne peux pas utiliser mon bras à pleine capacité. Je pense que la vitesse est aussi un élément qui doit être examiné.
En mai, le président Hakainde Hichilema a lancé la construction du projet de route à double voie Lusaka-Ndola qui traverse le district de Chibombo. Ce projet vise également à encourager le commerce et à améliorer la sécurité routière, déclare Albert Malama, secrétaire permanent du ministère des Infrastructures, du Logement et du Développement Urbain.
Nous avons besoin d'une intervention sérieuse et rapide pour aider à résoudre le problème des accidents. Le projet a déjà commencé, comme vous pouvez le voir. Ils le font par tronçon. L'espoir est que cela sera fait plus rapidement que les 3 ans que nous avons convenu avec eux.
Les autorités espèrent que les accidents de la route diminueront de manière significative une fois que le projet de la Great North Road sera terminé.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
politique américaine, à un peu plus de deux mois des élections américaines, les candidats à la présidence, Donald Trump et Kamala Harris, se préparent en vue de leur premier débat et font campagne sur l'économie. Le correspondant de la VOA, Scott Stern, fait le point sur l'état de la course. Le récit est de Yacouba Ouedraogo.
Donald Trump fait campagne sur l'économie et sur Kamala Harris.
Here's what we know about comrade Kamala Harris.
Voici ce que nous savons de la camarade Kamala Harris. Elle ne se soucie tout simplement pas du peuple américain, en particulier des travailleurs de la classe moyenne. Elle n'en a rien à faire de vous.
La campagne de Harris affirme que c'est Trump qui portera préjudice aux familles des travailleurs avec ses réductions d'impôts faites aux entreprises.
Le renforcement de la classe moyenne sera l'un des objectifs fondamentaux de ma présidence.
L'économie est le principal sujet de préoccupation des électeurs. Selon Hans Schafkopf, consultant politique, il s'agit d'un problème que Harris doit résoudre rapidement.
Elle doit expliquer pourquoi les gens payent ce qu'ils pensent être plus cher à la pompe et pourquoi leur pain coûte aussi cher.
Le colistier de Trump, J.D. Vance, affirme que voter pour Harris va entraîner davantage de pertes d'emplois aux États-Unis.
Pensez à tous les groupes d'intérêt puissants, à la bureaucratie défaillante de ce pays, aux gens qui se sont enrichis en délocalisant vos emplois en Chine. Ils veulent Kamala Harris. Le seul moyen de les battre et de les riposter, c'est de se rendre aux urnes en novembre prochain.
Le colistier de Harris, Tim Walz, affirme que ce sont les démocrates qui s'engagent en faveur des travailleurs américains.
Donald Trump et J.D. Vance ont quelque chose d'un peu différent en tête. La seule chose qu'ils savent des travailleurs, c'est comment profiter d'eux, comment ne pas les payer. Chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, ils ont fait la guerre aux travailleurs et à la capacité de négocier collectivement.
À un peu plus de deux mois de l'échéance, la course est serrée. La plupart des sondages d'opinion montrent que Harris a une légère avance sur Trump au niveau national. David Martinez, électeur du Michigan, soutient Trump.
C'est un vrai patriote américain. Je crois qu'il pense plus aux gens qui vivent dans ce pays qu'à lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est pour essayer d'aider quelqu'un.
Becca Roche, électrice de Géorgie, soutient Harris.
Vous savez, nous sommes en 2024. Nous avons besoin de sang neuf et nous avons besoin d'un nouvel avenir plus brillant.
Tout en continuant à faire campagne, Trump et Harris passeront une grande partie de la semaine prochaine à préparer leur premier débat présidentiel qui aura lieu le 10 septembre.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Wow.
Voilà, Mwendi Awa de Kassav pour clore cette édition de Le Monde Aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi, Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnon, un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.